bonjour, c'est La vie est en moi, nous sommes mardi matin, nous sommes sur Allegre FM 93.1 et j'ai la chance, l'honneur et le plaisir d'être avec Catherine Millet qui va nous parler de deux des dernières petites publications d'Art Press dans leur série des grands entretiens. Ils ont sorti deux volumes, le premier s'appelle La critique américaine, le modernisme, et le second, La critique américaine après le modernisme. Bonjour Catherine Millet. Et donc bon, ma première question, vu que c'est, j'imagine que tout le monde ne sait pas ce que c'est, tout le monde n'est pas vraiment investi dans les arts plastiques, ma première question sera, qu'est-ce que le modernisme en fait, qu'est-ce que recouvre le premier volume sur le modernisme?
Alors ça commence mal parce que je crois que tous les historiens n'emploient pas le terme de modernisme dans le même sens, donc c'est un petit peu compliqué, mais enfin quand même, le modernisme aujourd'hui c'est disons la période dans le domaine des arts plastiques, de la peinture, puisque c'est devenu après les arts plastiques avec les objets, les ready-made et tout ça, c'est la période qui, disons, va jusqu'aux années 60-70. Bon, et en tout cas pour certaines des œuvres qui ont été réalisées pendant cette période, des œuvres qui sont devenues en quelque sorte les classiques pour aujourd'hui, qui sont les œuvres de référence pour beaucoup de jeunes artistes qui travaillent aujourd'hui. Et en fait, le modernisme a produit une théorie, il y avait les artistes, mais il y a eu aussi les critiques, les théoriciens qui les ont accompagnés, et bien sûr, ce ne sont pas les artistes qui ont inventé cet isme-là, modernisme, ce sont les critiques d'art. Et l'un d'entre eux, avant tous les autres, qui était américain, Clement Greenberg, et avec tellement d'autorité dans sa parole qu'à un moment donné, évidemment, il est arrivé ce qui devait arriver toujours, enfin ce qui arrive toujours dans ces cas-là, c'est que il a provoqué une réaction contre ces théories. Et à ce moment-là, on a parlé de postmodernisme. Mais le postmodernisme, nous n'avons pas retenu ce terme-là. Je pourrais expliquer plus tard pourquoi. Voilà. Donc, ce qu'on appelle le modernisme, si on considère cette période comme je viens de la définir là, ce sont des œuvres qui en fait petit à petit, la conception de Greenberg c'était que de plus en plus l'art ne servait plus que lui-même, que l'invention des formes et que les effets optiques. Bon, et rejetait tout ce qui était de l'ordre, ce qu'il appelait la littérature, c'est-à-dire la narration, les figures représentées, les références à un extérieur du tableau lui-même. Voilà, bon, je crois que je vous ai à peu près dit.
Oui, merci. C'est, disons que, pour résumer ma vision, je vois, mais si on parle bien sûr que des arts plastiques, parce que ça serait très différent si on abordait la littérature ou la musique, ou l'architecture, surtout à propos du postmodernisme.
Bien sûr.
Mais il y a les avant-gardes, puis il y a une espèce d'idéologie des avant-gardes qui se survit à elle-même de façon dogmatique, ce qu'on appelle le modernisme. Et puis après, effectivement, la question du postmodernisme est peut-être à situer ailleurs que dans les arts plastiques, avec une autre dimension, enfin une dimension plus générale, plus globalisante, contrairement au modernisme. Mais bon, là, j'ai reçu la dame qui a fait le cahier Houellebecq, le cahier de l'Erne de Houellebecq, et c'était vraiment la question du refus de l'écriture moderniste par Houellebecq. Ça veut dire tout à fait autre chose. C'est pour prendre un exemple, ou bien sûr le travail de Jameson qui est dans le deuxième volume. Ce qui commence sur l'architecture ou sur la science-fiction, enfin des choses comme ça, c'est Greenberg est extrêmement sur une position dogmatique, et c'est marrant parce que j'ai retrouvé des réflexes de jeune homme. Il y a une phrase qui m'a révolté, ou c'est assez drôle, c'est la seule phrase dans les deux volumes. Il dit bon, dans le genre provocation. Il dit qu'en fait, il y a que les gens d'élite qui regardent beaucoup les œuvres d'art qui peuvent les apprécier.
Et c'est, ah oui, c'était très élitiste.
C'est vraiment comme dans le genre de provocation, c'est assez bien vu.
Moi, je sais plus si je raconte cette anecdote dans la petite introduction que j'ai faite pour ce volume, mais moi, j'ai un souvenir. Clément Greenberg était venu peut-être dans les années, fin des années 70, début des années 80, je sais plus très bien, donner une conférence à Paris. Vous imaginez, la salle était archi pleine et il a fait son intervention comme ça, de manière très, très sûr de lui, comme il avait l'habitude d'être. Et à la fin, quelqu'un est intervenu dans la salle pour lui dire, mais enfin, qu'est-ce qui vous permet, enfin une personne agacée, qu'est-ce qui vous permet de juger des œuvres d'art? Et il s'est levé, il a pointé le doigt comme ça, il a dit, mais parce que moi, je vois beaucoup plus de tableaux que vous. Donc c'était l'expérience qui justifiait son autorité.
Et on peut dire que si on suit ça, par exemple, au niveau de gens comme Meyer Shapiro en amont et avec Rosaline Krauss en aval, oui, c'est aussi un refus de l'engagement politique. Et donc, il y a effectivement...
Alors, oui et non, c'est curieux parce que en fait, vous venez de citer des noms. En fait, Greenberg, non, il est connu pour aussi ses engagements marxistes. Il a fait ses débuts en publiant dans des revues marxistes américaines. Il était, par exemple, très nourri d'un historien d'art, c'est amusant de le signaler, qui était Arnold Hauser, parce que plus personne aujourd'hui s'occupe d'Arnold Hauser. Bon, non, il avait une culture marxiste très très fondée, et on peut dire que Rosalind Krauss, quelques années plus tard, en fondant October, si vous faites une revue qui s'appelle October, là aussi il y a une référence marxiste très très évidente. Bon, mais néanmoins, leur conception de l'art, alors contrairement à ce qu'était par exemple l'art engagé en Europe ou alors pire que ça, le réalisme socialiste dans les pays de l'Est, leur conception de l'art était que, en fait, l'art n'était que lui-même. Il ne devait justement pas refléter ses discours politiques. C'était au sein d'une réflexion marxiste. Ils étaient en fait les héritiers plutôt des avant-gardes russes, De gens comme Malevitch, des gens qui avaient vu en quelque sorte l'aboutissement de l'histoire de l'art dans des formes qui allaient en fait donner des modèles d'ordre, si j'ose dire, pour la société, mais allaient donner ces modèles sous une forme abstraite. Après tout, c'est pas si éloigné non plus, il n'était pas du tout marxiste, mais Mondrian, il imaginait, on voit bien, j'imagine que un certain nombre de nos auditeurs ont visité par exemple l'exposition Mondrian au centre Pompidou il y a quelques années, où on voyait, ils avaient reconstitué l'atelier dans lequel ils travaillaient, qui s'était fabriqué, et avec le rêve qu'en quelque sorte tout le monde vive un jour dans du Mondrian, des ce qui a donné aussi une grande part de cette architecture moderniste que vous évoquiez tout à l'heure.
Oh non, on peut aussi... Ce serait une défense de l'autonomie de l'art, évidemment, bon, parce que vous parliez de la théorie du reflet, et on est dans les années 50, il y a encore un art socialiste qui est très présent.
Bien sûr.
Et par exemple, en France, on a des artistes qui font du réalisme socialiste, qui sont au Parti communiste français.
Bien sûr, bien sûr.
Et l'artiste de référence de Greenberg, c'est Pollock.
Oui.
Et je me souviens d'avoir vu une grosse expo à l'Institut américain, que c'est la première fois qu'on voyait tous les Pollock, donc c'est quand même pas venu tout seul. On en voyait un de temps en temps, mais là, il y en avait beaucoup.
Oui, oui.
Et c'était très, très impressionnant. Et donc, on était dans un autre propos, on était dans une affirmation à l'inverse, justement, de Arnold Hauser ou de Frédéric Antal ou de ces choses-là.
Bien sûr, bien sûr.
Et alors, donc, il y a d'autres auteurs, et il y a Michael Fried sur la place du spectateur. Et donc, lui, j'ai lu son livre, La place du spectateur. Hier, j'ai été visiter le Palais de Tokyo, les expositions qu'il y a actuellement au Palais de Tokyo, Solny, et puis les autres artistes, là.
Oui.
Et j'ai beaucoup, je sais pas pourquoi je pensais beaucoup à ça, mais enfin, c'est parce que je viens aussi de lire de recueil, là. Et je trouve que ça, évidemment, que ça parle beaucoup de la place du spectateur, que ça interroge beaucoup, Il y a quasiment une mise en situation là, actuellement dans ce qu'il y a au Palais de Tokyo du corps du spectateur,
oui, ben,
de la façon de se déplacer dans les expositions.
Bien sûr, c'est de toute façon pas très nouveau, hein. Ça remonte quand même aux années, même j'irais, enfin j'allais dire aux années 60, où on a commencé à voir des artistes qui installaient des œuvres dans l'espace et qui demandaient aux spectateurs de les pénétrer avec leur propre corps et d'en faire vraiment au sens propre l'expérience, enfin au sens physique. Et tout ça, bah oui, ça n'a fait que se développer depuis. Oui, oui. Et d'ailleurs, on pourrait dire que le Palais de Tokyo, même dans sa configuration, est l'aboutissement de cette implication comme ça du visiteur, on n'ose plus dire le spectateur, mais du visiteur, parce que cet espace très, très ouvert, très libre, où d'une certaine façon, sauf récemment, là, quand il y a eu l'exposition de Tino Segal, là, où là, il y avait des gens qui vous accueillaient dans cette exposition et qui faisaient un petit bout de promenade avec vous. En dehors de le moment de cette exposition, le spectateur est pas tellement, enfin, le visiteur n'est pas tellement accompagné au Palais de Tokyo. Il erre comme ça. Il va d'une exposition à une autre. Il s'est même pas rendu compte qu'il était plus dans la même exposition. Donc, en fait, il y a une... Je dirais que là, c'est presque l'autonomie du visiteur. C'est plus l'autonomie de l'œuvre d'art, c'est l'autonomie du visiteur.
Je suis d'accord, et ça a beaucoup progressé, parce que quand ça a été rouvert par Bourriaud et Sens, la référence me semblait être le squat. On avait un espèce de Thomas Hirschhorn au pouvoir, et on rentrait dans un squat.
Oui, c'était un peu ça. Ça avait été le parti pris des architectes.
Les gaines électriques apparentes, voilà. Toutes les évacuations d'air de n'importe quoi apparentes, enfin, il y a ce qu'on voit dans un squat. Donc c'était une espèce de contre-culture, enfin comme le street art, là il y a du street art en ce moment au Palais de Tokyo, il y avait une espèce d'affirmation de quelque chose d'autre.
Oui, oui.
Et c'était pas tellement libre en fait, c'est tout à fait paradoxal, mais il y a aussi beaucoup de squats où c'est pas tellement libre. Tandis que là maintenant, effectivement, hier, dans ma visite, j'ai eu ce sentiment d'une grande liberté d'appréciation du corps. Et il y avait un groupe de lycéens étrangers, et c'était pas pesant, c'est assez formidable quand même.
Ouais.
Il y avait, ni pour eux, ni pour nous, c'est pas facile à faire des choses comme ça, dans des espaces comme ça, que ça soit possible. Cohabitation de tout et de n'importe quoi. Et en plus, il y avait aussi, alors il y avait un dispositif qui était amusant, c'est qu'il y a des corps de visiteurs qui s'intégraient dans les œuvres par moment. Enfin, c'est des jeux sur la lumière, des espaces.
Bien sûr.
Ça fonctionnait bien.
Bien sûr. Et d'ailleurs, vous évoquez la lumière, mais c'est frappant de voir que des formes d'art, vous savez ce qu'on appelait l'art cinétique ou le hop art dans les années 60, et qui demandaient justement ce qu'on appelait à l'époque la participation du spectateur, qui devait se déplacer pour voir en quelque sorte les formes se transformer. Il y a un retour à ça. Il y a vraiment, je trouve, dans certaines directions que prend l'art contemporain aujourd'hui, vraiment des... à nouveau un intérêt pour ces effets optiques, et qui en effet demande que le spectateur veuille bien jouer le jeu avec l'artiste, quoi.
Et je me souviens, mais alors là j'étais très jeune, c'était encore à Bruxelles au Palais des Beaux-Arts, des barres avec trois couleurs dessus qu'il fallait toucher pour qu'elles bougent autour de la salle.
Oui.
Je me souviens plus du nom de l'artiste, donc on avait le bruit et le côté optique.
Oui, oui.
En même temps, je pense qu'il avait un noir argentin, comme la plupart de ces...
il y a eu beaucoup de gens d'Amérique latine.
Je crois que c'était un Argentin, mais qui habitait en Belgique. Et donc, c'était aussi très, très nouveau de pouvoir toucher une œuvre.
Oui, en principe, c'était
interdit. De toucher vraiment...
Oui, oui.
C'était pas des choses précieuses, ceci dit, mais...
Mais pour revenir à Greenberg, on peut dire que Greenberg, lui aussi, a défendu une conception du tableau, en fait, très, très visuelle, optique, en quelque sorte. Et des artistes comme Maurice Louis, qu'il a pu défendre, il utilisait pour décrire le tableau et le faire aimer, en quelque sorte, les effets optiques aussi. Il y a Larry Poons, qui est un peintre abstrait américain, pas très connu ici, il a eu très peu d'expositions, en fait aussi jouait vraiment sur les effets optiques. Donc tout ça est... En fait, les théoriciens peuvent être dogmatiques, ils n'empêchent pas que des fois les frontières entre les différentes voies de l'art moderne ou de l'art contemporain aujourd'hui sont très peu étanches et qu'il y a souvent des capillarités comme ça.
On va faire une petite pause musicale. Nous sommes sur Radio La Ferme 93.1, c'est La Vie est un roman. Je suis avec Catherine et nous sommes en train de parler de la critique américaine, le modernisme, une publication dans les grands entretiens. Et donc oui, c'est effectivement bien l'axe dans lequel c'est situé, c'est l'entretien avec Enberg et l'idée, c'est de réapprendre à voir. Et évidemment, comme vous, vous aviez écrit le livre de référence pour nous sur l'art contemporain. Donc, on essaie de voir les articulations. Et pour ça, Rosalind Krauss, quand j'ai découvert Rosalind Krauss, publié par Macula,
oui.
C'était très riche tout de suite. Et c'était une approche, c'était déjà une approche très, au niveau où nous, on l'a découvert à travers la traduction, c'est déjà une approche très différente. Et oui. Je pense, par exemple, quand elle... Bon, ce qu'elle raconte sur Rodin, c'est évident, mais sur la duplication, le moulage, tout ça, mais aussi sur les rapprochements qu'elle fait entre Saul Lewitt et puis Samuel Beckett.
Oui.
Et donc là, ça devient narratif, ça fait image, l'idée du clodo qui compte ses cailloux dans ses poches et qui passe d'une poche à l'autre, on est dans une autre dimension.
Oui, bien sûr. Et en fait, alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que des critiques donc d'une génération plus jeune que celle de Clément Greenberg, Michael Freud que vous avez cité tout à l'heure ou Rosalind Krauss, ont été des Greenbergiens. Ils ont commencé leur carrière très proche de Greenberg. Et puis il y a eu le moment de la rupture et d'une certaine façon, une rupture assez douloureuse, hein. Ça a été assez crispé. Mais ce qu'il faut peut-être remarquer, pour les deux d'ailleurs, aussi bien Michael Freud que pour Rosalind Krauss, mais peut-être plus pour elle, c'est qu'en fait, moi c'est mon interprétation, c'est que cette rupture par rapport au formalisme strict de Greenberg vient du fait qu'ils se sont quand même beaucoup appuyés sur une culture européenne et notamment française. Je veux pas faire de nationalisme comme ça culturel en avançant ça, mais simplement un constat. En effet, Rosaline a été une grande lectrice de Georges Bataille. Ils étaient quand même assez aussi nourri de psychanalyse. Donc en fait, on peut pas parler de narrativité, mais ce retour au contenu quand même et à l'analyse du contenu, je pense que quand même ça vient en grande partie de ces références qu'ils ont.
J'avais lu, elle disait dans un entretien, ça m'avait beaucoup touché, je trouvais ça formidable. Que quelqu'un l'avait abordé dans une exposition en lui disant « Mais c'est vous, Rosalind Krauss, vu ce que vous écrivez, je vous voyais beaucoup plus vieille. »
Ah oui.
Et comme elle était quand même assez coquette, après Michaud l'a invitée, donc on l'a vue au Beaux-Arts de Paris.
C'est une jolie femme, oui.
Et elle était vraiment superbe. À travers, et tous les autres étaient un peu plus... C'est des hommes plus vieux, plus âgés.
Oui, oui.
Et on voyait que c'était important pour elle, et j'ai trouvé cette anecdote formidable.
Oui. Mais c'est vrai que leur démarche était très, très stricte et très rigoureuse, et que c'est peut-être pour ça qu'on pouvait l'imaginer plus âgée qu'elle ne l'était. Parce qu'après tout, moi, quand j'ai par exemple commencé à publier, à travailler dans le domaine de l'art, c'était à la toute fin des années 60, au début des années 70, et quand même, ce qui dominait beaucoup dans la critique d'art à l'époque en France, alors c'était une critique d'art très subjective, j'aime pas, là il a fait un tableau qui me plaît, celui-là il me plaît moins, enfin voilà, c'était ce où on a pris un café ensemble, c'était très sympathique. Donc voilà, c'était ce genre genre de critique. Ce qui fait que, en effet, la démarche très, très méthodique des Américains, voilà, a surpris. Et des fois, a déplu, d'ailleurs, il faut dire ici, hein. Il y a eu des
mais
fans.
Moi, je me souviens de Les mots dans la peinture de Tom Wolfe.
Oui.
Par exemple, c'est très violent sur Greenberg, et ça a presque des relents d'antisémitisme par moment. C'est une espèce de réaction poujadiste.
J'ai un peu oublié ce livre, je l'avais lu à l'époque, mais oui, c'est vrai que...
On pourrait comparer à Jean-Clair ici, mais d'une autre façon, mais c'est sur le refus de la peinture abstraite et des choses comme ça. Et quand Jean-Clair pète les plombs un jour et décide que la peinture abstraite est la peinture des banquiers zurichois et se lance dans une quête nostalgique des métiers d'antan.
Oui.
Qui va lui permettre de faire des expositions formidables. C'est bien pour ça que c'est assez complexe.
Oui, oui. Mais en fait, ce qu'il oubliait, c'est que les abstraits, ils ont inventé leur technique aussi. Je veux dire que...
Non, mais c'est un état de l'abstraction qui est critique. Non, c'est pas...
Oui, oui, oui.
C'est une espèce d'académie. C'est vrai que moi qui ai travaillé, par exemple, sur l'abstraction en France dans les années 50, c'est difficile d'imaginer quelque chose de plus académique, je trouve.
Oui,
personnellement,
oui, oui.
Je pense... ça se dévoyait, puis après il y avait l'informe. Enfin, il y avait sans arrêt. Jusqu'à ce que Dubuffet réagisse.
Il y a un nouveau tri à faire, je pense, quand même. C'est-à-dire que moi, je suis un peu comme vous. Évidemment, c'était cette peinture abstraite, un peu déliquescente, je dirais, française, qui était exposée dans les galeries.
À toute l'école de Paris, quoi. Oui. Très, très maniérée.
Mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a quand même des choses à revoir. Je vois par exemple une chose qui me fera beaucoup. Enfin, c'est pas nouveau, mais vous savez, le centre culturel de Tours qui vient de rouvrir dans des nouveaux espaces s'appelle désormais Centre Olivier Debré. Bon, pourquoi ? Parce que Olivier Debré, grande figure d'ailleurs de cette abstraction d'après-guerre parisienne, bon, vivait pas très loin, qu'il a été très proche du centre au moment de sa création, et donc c'était juste de leur part à eux. Les responsables du centre, de lui rendre hommage. Bon. Mais ces immenses surfaces d'Olivier Debré, alors, moi, c'est vrai que j'ai regardé Olivier Debré, pour moi, c'était souvent de la peinture abstraite, mais paysagiste, vous voyez. Bon. Donc, au moment où je lisais Greenberg, bah, je trouvais que ça en racontait trop. Bon. Maintenant, quand vous regardez à nouveau ces tableaux qui sont... quasiment des monochromes, juste un peu de couleur sur les bords ou dans un coin, vous vous dites qu'il y a quand même peut-être des choses à re-regarder aujourd'hui dans cette peinture. Mais je suis d'accord avec vous, pas tout, en fait. Bon, voilà, ça.
Mais si je pense, il y a une fresque de Bray à Beaugrenelle, par exemple. C'est insupportable, mais par rapport à Appel, puisque bon, c'était fermé hier,
s'en
était lundi, mais j'ai pas vu les œuvres d'Appel qui est là-bas. Mais Appel, c'est Cobra, c'est les années 50, c'est encore tout à fait un autre discours.
Ah, c'est autre chose.
On est vraiment dans autre chose. On a une espèce de culte de la spontanéité qui fonctionne assez bien. Et puis, quelque chose qui a à voir avec la reconstruction après-guerre, avec l'art populaire, avec...
Oui, c'est vrai.
Ils ont la pêche, quoi.
Oui,
tandis que cette école de Paris, c'est ce qu'on pourrait dire. La France, c'est elle qui invente l'académie, quand même. Elle est toujours tentée de créer des... Et je ne sais pas, moi, les Beaux-Arts de Paris, comme école, est sûrement l'école, une des écoles européennes la plus sclérosée que j'ai jamais vue, qui a eu tellement de peine à se défaire de son passé qui est tellement...
Ouais, enfin, c'est quand même beaucoup moins vrai aujourd'hui, parce que quand même...
Ça se dit... Bon, c'est Brouillot qui est directeur,
bon,
évidemment.
On est en train de sortir du sujet,
parle du sujet... Enfin, on peut rester encore un peu sur le sujet, si vous voulez, je ne sais pas, mais je pense que les gens ont bien compris que ça parlait donc d'une période très précise et que ça rend compte d'un état des lieux de l'art à un moment donné.
Oui.
Mais
peut-être, vous savez, c'était un milieu français qui avait le défaut d'être trop sûr de lui et de penser que, en dehors de ce qui se passait à Paris ou du moins en France, rien n'existait.
Non, il fallait qu'il soit secoué, même si c'est la CIA.
En fait, pourquoi nous, dans cette collection d'Art Press, cette petite collection, le principe de la collection, vous savez, Art Press est une vieille revue qui a presque 40 ans, 45 ans maintenant, et donc tout au long de notre vie de revue, nous avons publié des grands entretiens comme ça avec des critiques d'art, des historiens, des artistes, bon,
des écrivains.
Et donc l'idée, c'est de reprendre au fil du temps tout ce qu'on a publier de ces grands entretiens, donc de faire des volumes autour d'une personnalité ou d'un thème comme dans ce cas-ci. Bon. Et en fait, de montrer comment les choses ont évolué. C'est ça qui est assez amusant d'ailleurs, comment les choses ont évolué, comment les discours ont évolué au fil du temps. Et je pense que peut-être ce qu'il faudrait rappeler, c'est que nous sommes capables aujourd'hui de publier ces deux volumes. On aurait pu en faire plus d'ailleurs avec tout ce qu'on a fait par rapport à la critique américaine. Bon, on est capable de publier ces deux volumes parce que on a fait l'effort d'ouvrir un petit peu ce milieu de l'art français qui, je le répète, au moment où moi, personnellement, j'ai commencé à travailler, était tellement replié sur lui-même. Vous n'imaginez pas à quel point je me faisais agresser dans les débats parce que, justement, on avait publié une interview de Clément Greenberg ou parce que on défendait cette peinture abstraite qui voulait rien dire bon, de Rothko ou alors pire, de Barnett Newman ou de Adrenard, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé la monochromie. Donc, en fait, les gens étaient très agacés par ça. Il y avait un anti-américanisme qui avait un fond politique, il faut dire, quand même, parce que, voilà, quand même, les milieux intellectuels dans les années 70 étaient quand même des milieux assez anti-américains.
Très marxistes encore.
Très marxistes encore. Donc voilà, il y avait cette hostilité. Bon, voilà, je rappelle un peu le contexte dans lequel tout ça s'est mis en place.
Oui, c'est une des... Bon, je voudrais juste dire avant de parler d'Art Presse en général, ces recueils évoquent l'informe de Blois et de Rosalind Krauss, l'exposition qui a eu lieu à Beaubourg.
Oui.
Et c'est une exposition formidable. Et puis vraiment, c'est pour dire aussi qu'on est parti là sur Greenberg, sur un point de vue très dogmatique, très formaliste.
Oui.
Et puis après, on arrive à cette exhibition à l'informe qui était quand même une très grande chose.
Bien sûr, c'était magnifique. Bien sûr.
Cette espèce de résidu très très bizarre, ces plumes blanches de Manzoni ou ces choses sales. Et puis il y avait ces photos de Cindy Sherman vertes, là, l'espèce de liquide,
de
sécrétions
extrêmement agressives. Des images de pourriture.
Et il y avait plein de choses formidables.
Oui, oui. C'était une exposition formidable.
Et après, il y a eu dehors. Enfin, ça. C'est vraiment un moment formidable. Oui, oui. Mais là, cette exposition est géniale et ressemble à des aspects sur l'éclectisme d'Art Presse. Mais c'est bataille, donc c'est d'une très grande précision. On a une autre ligne, la quille du bateau, vous voyez. On a une autre ligne de flottaison.
Oui, c'est vrai. Mais oui. D'ailleurs, en fait, c'est bien que vous rappeliez cette exposition de l'informe parce que ça a été des grands moments dans la vie du Centre Pompidou qui lui aussi fête son anniversaire. Il fête ses 40 ans.
Qui a aussi une belle existence. Très mouvementé.
Et en fait, on peut regretter qu'une seule chose, c'est qu'il y ait moins aujourd'hui d'expositions thématiques sur des sujets aussi risqués, parce que faire une grande exposition sur le thème de l'informe en se référant à Georges Bataille, qui est peut-être pas quand même l'auteur le plus lu dans les écoles, c'était encore à un moment où le Centre Pompidou prenait ce genre de risque. On aimerait bien revoir des choses de cet ordre d'ailleurs.
Je pensais aussi, pour revenir vraiment au noyau dur de ce modernisme, j'avais fait un article pour une exposition en Brétigny-sur-Orche sur... j'avais fait le texte du catalogue de Bran Van Velt.
Oui.
Il est mort pendant l'exposition.
Oui.
C'était en 80. Et donc, on avait De Koenig d'un côté et puis Bran Van Velt de l'autre côté. Et on avait cette impression... C'est bien parce que là, mon champion, c'est Bran Van Velt, mais en général, que la version européenne était plus bavarde. Mmh. Plus chargé en intention, plus bavard, partait dans tous les... Enfin, c'est pour revenir à cette différence entre l'enjeu du premier volume ici, je parle des œuvres,
oui.
Et puis ce qu'on faisait ici, c'était... Et puis après, l'exposition suivante, ou sous la précédente, c'est Adami, par exemple. Enfin, on était tout à fait dans des...
Adami, ça raconte beaucoup de choses.
Ça raconte beaucoup de choses. Hein.
Oui.
C'est...
Oui. Oui, oui.
Et ça a disparu, d'ailleurs. C'est assez amusant. Et puis... Parce qu'on avait... comment il s'appelle ? Adami me faisait toujours penser à un peintre italien avec la figure en plus. à Magnelli. Oui. C'est du Magnelli figuratif.
Oui, oui.
Donc on a
très actif, Adami.
Il est toujours,
bien sûr, on voit des expositions de lui régulièrement à la Galerie Templon.
Alors, comme on a la chance de vous avoir, je peux parler, c'est extraordinaire, les 45 ans d'Art Presse, c'est en fait un énorme patrimoine, et puis c'est carrément... Enfin, la plus belle vision qu'on peut avoir de l'art en France sur les 45 ans. C'est vraiment, je vois pas ce qu'on pourrait prendre d'autre.
J'oserais pas te dire que c'est la plus belle, mais en tout cas, c'est la plus complète, la
moins dogmatique, en fait, paradoxalement.
Oui. Merci de le remarquer, parce que comme moi-même, je le rappelais tout à l'heure, on a été beaucoup accusés de dogmatisme.
On reparlera de ça après un petit mot de musique. Donc oui, voilà, j'ai trouvé une musique, le type de musique à laquelle je pensais, évidemment, une musique minimaliste, et puis cette chanson-là est particulièrement intéressante. C'était quand il était petit garçon, Steve Riley. Il devait traverser les États-Unis parce que sa mère habitait à New York et son père en Californie.
Oui.
Et donc il décrit le bruit du train. Et on est vraiment dedans, donc on est sur Allegre FM, je suis avec Catherine Millet et on parle de ces deux volumes sur la critique américaine, enfin sur le patrimoine propre à Art Presse qui republie tous ces grands entretiens et évidemment il y a plein de choses, il y a Godard, je sais pas quoi, enfin tout ce qu'on peut imaginer, puis vu 45 ans d'une revue qui était quand même au centre de beaucoup de choses. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait une ligne directrice, est-ce qu'il y avait...
Il y en a...
Comment vous faites ? C'est votre bilan, il est comment ça ?
Oui, il y en a eu une, sans doute, au début, qui était, en effet, d'ouvrir le contexte, la situation française vers l'étranger, notamment vers les États-Unis, parce qu'on pensait que c'était là, quand même, où ça avait le plus bougé dans la période après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, oui, il y avait cette ligne, et on était... alors là, pour le coup, oui, on était dans la ligne Greenberg, on s'intéressait beaucoup à la peinture abstraite et à la peinture abstraite la plus radicale, et donc à ce qui s'était fait dans ce domaine aux États-Unis, et puis ce qui en essayait d'en prendre la suite, par exemple avec le groupe Support Surface ici en France. Mais en fait, c'était quand même déjà la fin de tout ça. Ce postmodernisme qui a pris la suite du modernisme, c'est quand même déjà dans les années 70 que c'est apparu, notamment dans le domaine de l'architecture. On a commencé à parler du postmodernisme à la fin des années 70. Donc je pense que quand même, nous, en tant que magazine, on n'est pas dans la même situation que les théoriciens, les gens qui, par exemple, enseignent à l'université et qui développent une pensée, une théorie, comme ça, d'une manière assez isolée. Nous, en tant que magazine, on est en permanence plongé dans l'actualité. Donc, on est obligé de faire face à tout ce que l'actualité peut aussi proposer de contradictoire. Bon. Donc je crois que on s'est quand même assez vite émancipé, je dirais pas complètement de ce modernisme américain, mais je dirais partiellement, ne serait-ce que par exemple parce que nous, en tant que bons petits Français, on avait aussi nos références littéraires ici. On parlait de Georges Bataille tout à l'heure comme une des références de Rosaline Krauss. Bah, évidemment, c'était aussi pour nous une référence. Il y avait le poids quand même de la psychanalyse à l'époque et des sciences humaines d'une façon générale qui nous permettait quand même de nuancer un petit peu cette approche trop stricte des Américains, ou en tout cas de certains des Américains. Et d'ailleurs, la meilleure preuve que ça, de ça, c'est, malheureusement, j'ai pas eu l'opportunité de les interviewer, mais on était aussi de grands lecteurs de Tom Hess, par exemple, et de Harold Rosenberg, qui étaient les contradicteurs de Clement Greenberg là-bas à New York. Mais on a publié des textes d'eux.
C'est-à-dire que vous commencez dans un cadre qui est assez provincial, une France repliée sur elle-même, et vous faites un travail d'ouverture.
Oui.
Parce qu'aussi, si on prend par exemple l'arrivée du conceptuel, je pense à Paul Armangette qui revient de Suède. En fait, c'est aussi quelque chose qui vient de l'extérieur. Hein, où,
absolument, oui.
Et puis des gens comme Buren ou comme... Boltanski, etc., seront jamais des artistes cantonnés dans un marché, marché local ou dans une... Enfin, c'est des problématiques qui sont tout à fait ailleurs.
Oui, bien sûr, Bah oui, parce qu'en fait, notre génération, c'est la génération de Boltanski, Buren, Annette Messager. Donc voilà. Donc à l'époque, Jean Le Gac aussi. Alors pour ce qui est d'introduire de la narration dans l'art, Jean Le Gac est tout à fait, exemplaire de ça.
C'est les Duchampiens, quoi. En gros, c'est une espèce de mise à distance, quand même, d'une pratique de premier degré, de l'artisanat, du côté la façon, le côté manoucier, bissière. Enfin, je peux parler de ça. Mais, et puis, il y a un autre aspect, c'est que pratiquement tout ce à quoi j'ai participé d'une façon ou d'une autre a toujours été recensé dans Art Press. Là, vous venez de m'amorter les deux derniers numéros, j'en ouvre un au hasard. Et j'ai fait l'ouverture du 104 avec deux architectes avec qui on a bossé pendant 6 mois, qui s'appellent Berger et Berger.
D'accord.
Il y a une exposition et c'est d'Art Press.
Oui, oui.
C'est à la page 18 de ce numéro.
Bon,
ils sont à la Comédie de Caen. C'est formidable.
J'ai bien fait de vous apporter ce numéro.
C'est quand même quelque chose. C'est peut-être un peu décevant sur la tenue, effectivement, intellectuelle, d'avoir des points de vue forts et puis développés, etc., etc. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est... Au niveau de l'histoire factuelle, ça couvre vraiment tout, je pense. Et c'est un petit peu comme Beaubourg, l'histoire de Beaubourg. Bon, et vous n'avez pas fini comme Beaubourg, vous faites pas, vous n'êtes pas devenu Beaux-Arts Magazine, contrairement à Beaubourg. Qui est plus très aventureux.
Non. Et je vais vous dire une chose, parce que je rappelais qu'au début de son histoire, Art Press a essayé d'ouvrir le milieu français comme ça vers l'extérieur. Mais la revue elle-même et la rédaction est restée toujours très, très ouverte. Alors, ce n'est pas simplement qu'on fait appel à des collaborateurs qui sont à l'extérieur des frontières françaises, mais c'est que ici même, en France, on a toujours été très attentif aux nouvelles signatures, en quelque sorte. Quelqu'un qui a envie de démarrer, qui s'intéresse à l'art, qui a envie de se faire une petite place, commencer à exister dans le milieu de l'art, bien souvent, il vient à Art Press et il propose ses petits articles, comme ça. Et de temps en temps, ça marche, parce que de temps en temps, ces articles sont bien écrits, bien fichus, ou avancent un point de vue qui est intéressant. Et donc, voilà, les générations se renouvellent à Art Press. Je dis toujours, les vieux sont toujours là, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui arrivent et avec lesquels on aime beaucoup travailler et qui nous font évoluer notre point de vue, en fait. C'est sûr que Anaël Pijat, qui est notre rédactrice en chef maintenant depuis 5-6 ans, elle n'a pas 40 ans, elle a des choix qui ne sont évidemment pas les miens, mais le dialogue entre nous est extrêmement intéressant, productif, et ça me permet à moi de ne pas m'enfermer dans mes obsessions, quoi. Et j'espère qu'elle non plus n'est pas trop enfermée, que je lui apporte quelque chose.
Comme j'ai dû beaucoup travailler là sur Houellebecq à propos des cahiers de Lerne, il y avait Joanet là, par exemple.
Ah bah, Jean-Yves Joanet.
C'était vraiment intéressant. Ils sont dans... C'est l'équipe d'Evidence, là, ils sont dans Art Press quand ils se fâchent avec Houellebecq et qu'ils le traitent de réactionnaire.
Exact.
C'est une histoire d'Art Press, en fait. C'est un épiphénomène d'Art Press.
Oui, puisque Jean-Yves Joanet a en effet été notre rédacteur en chef pendant un certain nombre d'années. Il faisait partie de ce groupe qui s'appelait Les Perpendiculaires, avec Nicolas Bourriaud, qui est un des créateurs du Palais de Tokyo, avec Christophe Kim, d'ailleurs, qui a été aussi associé pendant 10 ans à la rédaction d'Art Presse. Et donc, oui, bien sûr, ils ont eu cette polémique très, très raide avec Michel Houellebecq. Nous, on les a accompagnés, d'ailleurs, dans cette polémique. Et puis, la vie intellectuelle est telle que, un jour, quand même, Michel Houellebecq a publié des romans qui nous ont intéressés. Les polémiques étaient retombées. Et puis, voilà. Et puis, on a fait des interviews de Michel Houellebecq. Et on a fait un petit volume des grands entretiens avec Michel Houellebecq. Donc tout ça, ça va et vient. Et c'est vrai. Il y a eu Jean-Yves Jouannet comme rédacteur en chef d'Art Presse. Il y a eu ensuite.
Puis je pensais Lévier. Aussi alors à votre rapport à Baudrillard. Là. Parce qu'on m'a parlé pas mal. Il y a des gens qui sont venus là pour qui ont fait 3 volumes sur les 40 ans de Beaubourg.
Oui.
L'édition B2, c'est sur l'architecture, en fait. Oui. Mais il y avait le sociologue qui est le meilleur sur la question, qui s'appelle Jean-Louis Violo.
Oui.
Et qui est très fan de Baudrillard. Donc, oui. Il parle du rapport de Baudrillard à Art Presse dans le papier qu'il a fait, parce que il y a un lien très fort affectif comme ça, et puis une fâcherie.
C'est quelque chose d'important, parce que, quoi. Comme vous savez, un jour, Jean Baudrillard s'est mis à attaquer l'art contemporain d'une certaine façon, comme ça. À mon avis, je relirais aujourd'hui ce qu'il disait à l'époque. Peut-être que je serais un peu moi-même moins raide dans ma réaction, comme ça, parce que quand même, je crois qu'il avait vu arriver des excès, comme ça, dans cette inflation autour de l'art contemporain qu'on constate aujourd'hui, quoi. Il faut dire, il faut garder. Je pense que la longévité d'Art Presse, elle s'explique aussi par ça, c'est-à-dire qu'en effet, on est une revue d'art contemporain. C'est le cœur même de notre revue, que bien sûr notre vocation c'est d'aider le public à comprendre cet art contemporain, c'est pas toujours évident, mais je crois que c'est aussi dans notre vocation de faire des choix et de pas tout défendre et d'avoir aussi parfois un point de vue critique. De temps en temps on fait des éditos pour dire attention là pousse, on va trop loin. Récemment Anaël Pijat a fait un édito très méchant contre ce projet de Jeff Koons, vous savez, d'installer un hommage aux victimes du Bataclan avenue du président Wilson devant le musée d'art moderne et de la ville de Paris et le palais de Tokyo. Franchement, c'est grotesque, quoi. Son projet de sculpture est absolument grotesque. Pourquoi le mettre là, devant les musées? Évidemment, pour lui, c'est mieux, mais en fait, si c'est un hommage aux victimes du Bataclan, il y avait peut-être la place d'installer cette sculpture dans le petit square, justement, qui fait face au Bataclan. Donc, elle a signé là un éditorial très, très polémique, quoi. Et ce qui nous vaut toujours beaucoup de courriers, c'est très agréable.
Ah oui, c'est bien. Donc, vous restez, il y a un côté juvénile qui reste.
J'espère. Oui.
Et donc, je pensais... Oui, je vous ai vu à Bordeaux une fois, par exemple, entre Jean-Clair et Harald Zeman.
Ah oui, c'était un grand moment.
C'était bien, hein.
Ah oui, c'était... Je crois que c'était peut-être à l'occasion, alors là...
Une exposition sur les années 60.
Oui,
Très Art Presse aussi.
C'était Richard Lédier, à l'époque, qui était notre rédacteur en chef, qui m'avait suggéré, moi, chercher une idée. On m'avait dit, écoute, organise-nous... Enfin, le CAPC m'avait dit, organise-nous un débat, chercher un peu une idée. Et c'est Richard qui, justement... Alors, je pense que Richard Lédier, en tant que critique, est quelqu'un d'extrêmement ouvert, justement... de très, très éclectique et qui en même temps a une vision très, très personnelle, très originale. Et c'est lui qui m'a dit, mais écoute, réunis ces deux personnalités tellement contrastées qui sont Harald Zeman, donc qui a été le modèle de ce qu'on appelle aujourd'hui les curateurs, des organisateurs d'expositions, qui avait réalisé en 1969 « Quand les attitudes deviennent formes », qui est restée la grande exposition culte des avant-gardes. Et puis Jean-Clair, qui était, lui, sur des positions, entre guillemets, réactionnaires, enfin, très, très critiques sur les avant-gardes. Et c'était d'autant plus pertinent de les mettre ensemble, c'est qu'ils avaient travaillé ensemble dans une époque antérieure. Ils avaient été très proches, en fait. C'est ça qui était assez intéressant. Et ça avait été... Enfin, j'espère que vous en avez gardé un bon souvenir.
Très bon souvenir. C'était une très belle matinée. C'était magnifique.
C'était un moment assez exceptionnel de dialogue très contradictoire entre ces deux très fortes personnalités. Oui, moi, j'avais trouvé ça très, très agréable pour moi-même, en fait.
Merci. On va refaire une petite pause musicale.
America, I've given you all, and now I'm nothing. America, $2.27, January 17th, 1956. I can't stand my own mind. America, when will we end the human war? Go fuck yourself with your atom bomb. I don't feel good, don't bother me. I won't write my poem till I'm in my right mind. America, when will you be angelic? When will you take off your clothes? When will you look at yourself through the grave? When will you be worthy of your million Trotskyites? America, why are your libraries full of tears? America, when will you send your eggs to India? I'm sick of your insane demands. When can I go into the supermarket and buy what I need with my good looks? America, after all, it is you and I who are perfect, not the next world. Your machinery is too much.
Ginsberg. Et donc ça va. Je voulais profiter.
C'était un intermède musical en effet, parce que je trouve qu'il avait une voix
il
magnifique.
Est bon, hein. Oui. Surtout que c'est très orbital. En général, c'est rarement vraiment. Peut-être que Guy Siècle une fois avait fait ça il y a longtemps en France, mais c'est difficile. Oh, il y a Anne-James Chaton avec Diex qui sont, c'est pas mal, mais en général c'est assez laborieux. Tandis que là, il sait le faire. C'est
très
vraiment,
bon.
Il est très très bon. Je n'ai malheureusement jamais vu une lecture en vrai de Burroughs au Palace, par exemple. Je ne sais pas ce que ça faisait, mais peut-être très, très
bien. Moi, j'ai le souvenir au Centre Georges Pompidou. Ça avait pratiquement créé une émeute.
Ah oui, bien.
Oui. Il y avait des gens suspendus, vous imaginez. Je me souviens que des gens s'étaient assis, avaient trouvé à s'asseoir dans les poutres, vous savez. Pour pouvoir être là, parce que
Burroughs, c'est marrant, parce que les dernières fois que j'ai vu ça, c'est lié à, en fait, parce que... On va pas avoir le temps de parler de Jameson, on n'a pas le temps de parler de tout, mais c'était pour Rem Koolhaas à Beaubourg.
Ah oui.
Il y avait une espèce de début d'émeute et c'est amusant parce qu'il y avait aussi, et Beaubourg a été un endroit formidable, comment il s'appelle, celui qui fait des films avec les gros. Kill Pussycat, là, il fait des films légers, érotiques. Rouchemeyer. Il y avait des séances de Rouchemeyer à la Cinémathèque et les gens se battaient pour rentrer.
Oui.
C'était le début de Beaubourg, mais c'était génial.
C'est assez sympathique parce que je pense que là, c'est les moments, je dirais que c'est des moments très vrais.
Absolument.
Où un artiste rencontre son public. Alors bien sûr, ça se passe dans cette institution, mais en fait, il y a une spontanéité de la part du public qui
n'est
pas quelque
hein.
chose de programmé, vous voyez, par les médias.
Il y a eu des moments où l'endroit, on avait un grand sentiment de liberté. Bon, c'est plus du tout le cas, mais il y a eu des moments où on était vraiment
absolument,
bien.
Absolument.
Ou même les 80 ans de Beckett, par exemple, toutes les pièces qu'il y avait en bas, tout ça. Il y a eu des moments où on était porté par l'endroit.
Absolument.
C'est un endroit où moi, je me suis senti bien.
Absolument.
Je ne me sens plus bien du tout, mais c'est un endroit où je me sens très... Non, ça c'est une espèce de grosse boutique avec des artistes qui vendent très cher.
S'ils replongent dans leur passé à l'occasion de cet anniversaire, ils vont peut-être redécouvrir justement les moments de grâce comme
ça du Centre
Pompidou.
Je crois qu'ils sont un peu mangés par leur administration. Enfin, c'est une idée que j'ai. Je pense que la bureaucratie a pris trop de pas. Je ne sais pas comment vous faites à Art Press, mais...
On a la chance d'être une toute petite structure. Donc, c'est ce qui nous sauve,
je crois
peut-être.
Qu'ils sont un peu bouffes.
On rame sûrement un peu plus que d'autres, mais en même temps, on a une très grande liberté, ce qui est inestimable aujourd'hui lorsque vous êtes dans la presse. Alors, ça, je crois que je le souligne toujours. On est vraiment un magazine très libre. Ouais.
Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'en ce moment, cette exposition contre-culture à Maison Rouge, là.
Oui.
Et donc, c'est aussi un aspect que vous avez couvert. Je vous ai vu là-bas parler de Journiac. Je ne sais pas si vous avez vu l'exposition. Est-ce que cette exposition serait l'autre d'Art Press pour vous?
Vous voulez dire l'exposition de la Maison Rouge? J'ai pas encore eu l'opportunité d'y aller,
alors,
mais bien sûr,
c'est la marche, quoi.
Je vais y aller parce que c'est une partie de mon histoire qui s'inscrit dans ce contexte, c'est sûr.
Donc vous avez tout couvert, parce que ça, c'est une marche qui ressemble à... C'est une marche en même temps, comment dire... Disons que l'idée qu'ils ont d'Art Press, ils ont un art ils ont l'idée d'un art officiel d'opposition. Mais bon, il y a 81, il y a Jacques Lang.
Bien sûr.
Ça devient... L'opposition prend le pouvoir, en fait.
Bien sûr.
Il y a les colonnes de Buren, enfin, c'est quand même des choses...
Bien sûr.
Mais donc, c'est une exposition sur la marche, mais une marche... Alors, ça marche, mais ça peut marcher pour Bazooka, pour certains groupes punk et tout, parce qu'ils font des choses qui sont globalement, comme genre, qui n'ont jamais pas été récupérées par l'institution, ici.
Oui, ça c'est vrai.
C'est donc...
Mais ça a produit quand même des formes. Moi, je dirais que c'est ce qui a permis aussi, par exemple, à la figuration libre, ce qu'on a appelé la figuration libre, de trouver sa place aussi dans le milieu de l'art.
Oui, c'est presque...
Des gens qui mélangeaient l'art et puis la musique. Je pense que c'est à la frontière, justement, de ça.
Ouais, c'est difficile à... C'est difficile à articuler, effectivement, mais des images... Enfin, et un fort... Il y a une forte emprise de la question des genres, de l'homosexualité, tout ça, dans l'exposition Contre Culture.
Oui, ce qui est normal.
Moi, j'ai du souvenir de choses extrêmement radicales dans la presse, quasiment plus radicales que ce que faisait la Contre Culture, avec des artistes extrêmement radicaux qui prenaient des positions très, très radicales, ou un numéro spécial sur la pornographie, ou des choses.
Saint-Sulpicien, c'était pas une revue officielle. Si vous me branchez sur le sexe à 9h du matin.
Non, mais je veux pas vous brancher du tout là-dessus.
Mais
je pense à cette histoire
sûr.
De marche et d'officialité. Encore une fois, j'ai l'impression qu'Art Press a tout couvert d'une façon ou d'une autre.
On a beaucoup. Alors, pourquoi on a fait à une époque des numéros sur la pornographie? Parce que, juste, c'est drôle, on a commencé cet entretien en parlant de peinture abstraite.
Ouais,
je me souviens que mon édito qui justifiait ce numéro qu'on avait fait à l'époque sur la pornographie, c'était, je m'appuyais justement sur le fait que, Art Press est un magazine qui vous montre beaucoup de peinture abstraite, mais qui prend conscience aussi qu'il y a d'autres images qui se baladent dans la société, pas simplement ces beaux monochromes de Barnett Newman, et que c'est aussi notre devoir de réfléchir sur ces images, et ces images, c'était l'explosion du cinéma porno à cette époque-là. On a fait ces numéros comme ça au fil du temps sur la pornographie ou des sujets annexes, toujours pour lutter contre la censure, bien sûr. Ça a toujours été notre. S'il y a bien une lutte sur laquelle on n'a jamais relâché, c'est la liberté d'expression, lutter contre toute forme de censure, etc. Donc ça justifie en effet nos interventions sur des questions de sexuelles. Mais oui, vous savez, même encore récemment, puisque vous parliez de ces questions de sexualité, de genre, etc., on s'est aperçu il y a 2-3 ans peut-être, que c'était l'anniversaire de cette fameuse photo de cette artiste Linda Benglis, vous savez, qui s'était photographiée, et l'image était parue dans la revue américaine Art Forum, avec un énorme, elle était nue avec un énorme sexe masculin, comme ça, sur son ventre. Bon, et c'était à l'époque un geste de sa part pour dénoncer la domination masculine dans le monde de l'art. Et en fait, mon idée à ce moment-là, ça a été de demander à celle qui s'appelait encore Béatrice Preciado et qui s'appelle aujourd'hui Paul Preciado, de commenter cet anniversaire. Donc on a publié un formidable article de Béatrice, aujourd'hui Paul Preciado, qui parlait justement par rapport à son enfance, à sa jeunesse, qui avait été cette question de découvrir qu'elle n'avait pas... Elle n'avait pas un sexe comme ses camarades garçons. Et je pense que oui, c'était... On n'a peut-être pas été dans ce domaine-là militant comme d'autres, parce que notre priorité, c'est quand même les questions esthétiques, je dirais, les questions d'ordre plastique. Mais il y a toujours eu des textes pour envisager ces questions-là. On avait fait, il y a très longtemps, on a fait des interviews avec Orlan, par exemple, qui est aussi quelqu'un qui a pris des positions extrêmes et qui les a assumées pleinement dans son corps. Donc on a toujours été attentif à ce genre de démarche très très radicale, quoi. Je pense que pour moi d'ailleurs, une des fonctions de l'art dans notre société, c'est le radicalisme, c'est que des personnalités ont le courage, la volonté d'aller jusqu'au bout du projet qu'ils se sont fixés. Donc c'est comme ça qu'ils donnent vraiment à réfléchir à leurs contemporains, quoi.
Oui, parce que bon, j'ai pensé à ça aussi sur cette question de Greenberg, et puis j'ai essayé de l'articuler avec votre livre sur Salvador Dalí.
Oui. Ah oui, on est loin, oui. Oui, oui.
C'est des choses différentes, mais qui coexistent. Ah oui, je pensais aussi, peut-être qu'un effet de synthèse, mais c'est l'exposition, j'ai oublié son titre, L'art du crime, ça s'appelait, de Jean Clair, quand il fait une exposition sur la criminologie au 19e siècle,
oui,
avec les moyens de l'art contemporain dans le matériel d'exposition, dans la façon d'exposer,
oui,
dans la mise en scène, il a...
Oui.
Ce dont il médit par ailleurs, il l'utilise à fond,
oui,
pour montrer des crânes, la phrénoménologie, des, oui, empreintes. C'était une très très belle exposition.
Oui,
c'est avant la mélancolie, elle était remarquable.
Il a fait des expositions comme ça, thématiques, absolument remarquables, en nous donnant à voir des images, des objets qui ne sont jamais montrés, en fait, ou très rarement. Non, ça, je suis d'accord. Mais il y a quand même enfin, c'est pas si étranger que ça à tout ce qu'on est en train d'aborder, là, ce livre que j'avais fait sur Salvador Dali. Alors, c'est vrai que lorsque j'allais interviewer Clément Greenberg ou Michael Fried, j'aurais jamais imaginé à l'époque que j'allais faire un jour un livre sur Salvador Dali. Bon, c'est les paradoxes de la vie. Mais, et c'est une chose sur laquelle j'insistais dans mon introduction là pour ces volumes, c'est qu'en fait, le formalisme a été une magnifique école du regard. Et cette faculté que l'on se donne avec ses yeux d'observer d'une manière extrêmement précise ce qu'on a, ce qui se présente à nous, je pense que c'est pas antithétique avec la démarche de Salvador Dali, qui est vraiment aussi entièrement conduit par un œil d'une acuité extraordinaire. Et je disons que c'est comme ça que pour moi-même, je dirais, dans ma propre démarche, je fais le lien entre les deux. Je pense que j'ai appris à regarder en lisant Clément Greenberg ou en allant interviewer aussi en allant visiter les expositions que faisait William Rubin au Musée d'Art Moderne de New York, que j'ai appris à voir grâce à ces gens. Et que l'œil exercé grâce à eux, je pouvais en effet après m'intéresser à un peintre comme Salvador Dali, pour qui, n'est-ce pas, le moindre détail était tellement important. Voilà. Donc finalement, il y a quand même toujours une logique, quoi, qu'on porte en soi, même si on n'en est pas tout de suite conscient sur le moment, quoi.
Et donc, je voudrais signaler que l'interview de Jameson, il est de 1990, c'est quand même très tôt.
Je suis pas sûr, je crois qu'il n'était peut-être pas traduit encore, les ouvrages étaient peut-être encore traduits en français. Voilà. Mais dans mon souvenir, c'est Jean-Joseph Gou qui enseignait à l'époque aux États-Unis, qui m'avait parlé de lui et proposé cet entretien.
Oui, je crois que c'est indiqué, la première publication... On l'a découvert pratiquement à travers Les Prairies Ordinaires, qui est une maison. Enfin, oui, il y avait des choses qui venaient sur la science-fiction, des choses comme ça,
oui,
mais
oui.
On ne comprenait pas très bien la globalité.
C'est très amusant parce que des gens comme Jameson ou Dave Hickey, ils ont réintroduit justement dans la réflexion tout ce que Greenberg aurait vomi, c'est-à-dire ce qu'il aurait appelé le kitsch, en quelque sorte. C'est très amusant. Donc,
Mais si le point de départ, c'est Lyotard, c'était pas kitsch du tout. Donc, on a une espèce de... C'était quand même assez épuré quand, par hasard, il invente ce concept de postmodernisme pour dire du bien de la France. Et moi, j'aimais beaucoup, quand j'étais étudiant en fac, j'ai fait de l'histoire de l'art. J'aimais beaucoup Lyotard.
Ses
bouquins dérivent à partir de Marx et de Freud. Là, c'était formidable.
Il est aussi l'auteur, il faut le rappeler, d'une des grandes expositions majeures du Centre Georges Pompidou avec les immatériaux.
Quelle vision!
Dieu sait s'il a aussi, il y a eu des discussions autour de cette exposition, des polémiques, est-ce que c'était le lieu, le Centre Pompidou, pour faire une telle exposition, mais en tout cas, c'était une base de réflexion aussi très très
c'est
importante.
C'est amusant ce parallèle, parce que le Centre Pompidou, c'est Dalí. L'ouverture, le public qui arrive, l'effet Beaubourg de Baudrillard, c'est l'exposition Dalí.
Oui, il y a.
Et là, il y a vraiment beaucoup de monde qui vient. Et
bien sûr.
Succès inouï et
ça
le taxi dans le trou et tout.
Et ça a recommencé. Je pense que c'est ça qui est très troublant, la force de Salvador Dalí. C'est qu'en fait, il y a eu donc deux grandes expositions Salvador Dalí au Centre Georges Pompidou, une ancienne que vous rappelez, et puis une plus récemment, c'était peut-être il y a 2 ans, j'ai plus la date exacte en tête, et les deux expositions sont toutes les deux les records de fréquentation du centre. Ouais.
Bon, je crois qu'on a fini. Merci Adrien, tu peux envoyer. Merci beaucoup d'être venu.
Merci
et n'hésitez
à vous.
Pas à revenir quand vous sortirez d'autres grands entretiens
avec
d'après.
Avec plaisir.
C'était un vrai bonheur de vous avoir reçu. Merci Catherine.
Merci à vous.